France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Elle a pris son envol pour un long voyage. Sophie Anneau a décollé tout à l'heure en direction de la Station Spatiale Internationale. Nous serons à Cap Canaveral dès le début de ce journal pour vous raconter les premières minutes de cette aventure qui conduira pour la deuxième fois seulement dans l'histoire une Française dans l'espace. À suivre également la conférence de Munich sur la sécurité, l'occasion de s'interroger sur la pérennité du lien transatlantique, en particulier s'agissant de l'aide apportée à l'Ukraine. 20 ans après la mort du jeune Ilan Halimi, Emmanuel Macron présidait ce matin à Paris une cérémonie en hommage à sa mémoire, tandis que dans le Nord, on le verra, Marine Le Pen s'évertuait encore à rompre avec le passé antisémite des pères fondateurs de son parti. Enfin, avec notre invité, on parlera élection municipale à un mois, quasiment jour pour jour, du premier tour. C'est l'aspiration de beaucoup d'enfants, y compris d'ailleurs encore à l'âge adulte. Regarder la Terre d'en haut, comme ils disent, et c'était très certainement le cas aussi pour Sophie Anneau, qui a 43 ans, va donc pouvoir enfin concrétiser son rêve. L'astronaute s'est envolée il y a un peu plus d'une heure pour sa première mission vers la Station Spatiale Internationale, l'ISS, laquelle effectue un tour complet de la Terre toutes les 90 minutes, soit un spectacle de lever ou de coucher de soleil tous les 3/4 d'heure. Alors dans cette aventure, la Française est accompagnée de 2 Américains et d'un Russe. L'équipage devrait mettre une 30aine d'heures environ pour rejoindre le laboratoire orbital et leur séjour prendra fin sans doute au mois d'octobre, soit 8 à 9 mois au total, un record pour un Européen. Notre envoyé spécial Laurent Kramer a pu assister tout à l'heure au top départ depuis Cap Canaveral en Floride. 5, 4, 3, 2, 1.
Le ciel s'est fendu d'un son assourdissant ici à Cap Canaveral. Les 400 tonnes de carburant et les 9 moteurs du lanceur SpaceX arrachent la fusée du sol. À bord de la capsule, tout en haut de la fusée, Sophie Adnaud et ses 3 collègues astronautes disparaissent dans le ciel. Deuxième déflagration, 2 minutes 30 après le décollage, le premier étage de la fusée se détache pour revenir à sa base de lancement. Mission accomplie. Sophie Anneau et ses 3 collègues astronautes naviguent désormais à 28 000 km/h vers l'ISS. Le voyage durera 34 heures. L'équipage devra parcourir jusqu'à 20 fois le tour de la Terre avant d'arriver demain soir à seulement quelques mètres de la station ISS. Sophie Anneau devient ainsi la 2e astronaute française à s'envoler pour une mission spatiale habitée.
Osons rêver grand ensemble. Voilà les tout premiers mots lancés depuis sa fusée par Sophie Anneau, la 2e française, donc Laurent le rappelait à l'instant, 2e française de l'histoire seulement à effectuer ainsi un vol dans l'espace, 30 ans tout juste après la pionnière Claudie Aigneret, qui l'a inspirée et dont elle porte d'ailleurs l'écusson. L'occasion de s'interroger pourquoi dans la famille des astronautes, spationautes et autres cosmonautes, le sexe féminin est aussi peu représenté. Noa Marché, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À l'évidence, la pesanteur donc n'y change rien. Comme sur Terre, la parité dans l'espace est loin d'être respectée.
Oui, il y a d'abord l'autocensure dans les études scientifiques, d'après Isabelle Vauglin, vice-présidente de l'association Femmes et Sciences.
Ce qui gêne les femmes pour aller dans l'espace et pour faire des sciences d'une façon générale, ce sont les stéréotypes de genre. Les femmes ne sont pas, dès le lycée, dès les premières années d'études, dans les filières qui permettraient d'aller jusqu'à le fait d'être astronaute.
S'ajoutent à ça des équipements encore inadaptés, comme lors d'une sortie extravéhiculaire de 2 astronautes il y a 7 ans.
Ils n'avaient pas pensé qu'il pourrait y avoir 2 femmes qui sortent en même temps. Donc, il n'y avait pas 2 combinaisons de la taille des femmes dans la station internationale.
Pourtant, de plus en plus de femmes sont candidates pour être astronautes, explique Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse.
On l'a vu lors de la précédente sélection de l'Agence spatiale européenne, les dossiers des femmes étaient généralement meilleurs que ceux des hommes. C'est-à-dire que les dossiers qui ne répondent pas aux critères de départ, c'était essentiellement des dossiers d'hommes. Voilà. Tandis que les femmes, elles, étaient généralement surqualifiées par rapport à ce qui était demandé.
Alors, pour inciter les fillettes à rêver de voyages dans l'espace, une solution pour Isabelle Vauglin.
Il faudrait vraiment que les médias parlent beaucoup plus des femmes astronautes, parlent autant de Sophie Adenau qu'ils n'ont parlé de Thomas Pesquet pour qu'elle puisse servir de référence féminine aux jeunes filles et aux petites filles de maintenant.
Et la part des femmes dans la profession est en très légère augmentation de 11% il y a 7 ans. On est passé à un peu plus de 13% aujourd'hui.
Merci Noa Marché.
Peut-on encore sauver les relations transatlantiques?
Ce matin s'est ouverte la conférence de Munich sur la sécurité, quand bien même il n'est pas rare que la grand-messe espace réunissant tout le Gotha diplomatico-militaire occidental soit le lieu de prise de parole parfois controversée. La capitale du Land de Bavière reste toujours et encore marquée par le discours d'une rare agressivité prononcée l'an dernier par le vice-président américain, lequel n'avait pas hésité non seulement à se ranger du côté de l'extrême droite européenne, mais aussi à faire la leçon au vieux continent sur la démocratie. Alors cette fois-ci, Jill Evans ne sera pas présent à l'événement, remplacé par le chef de la diplomatie, Marco Rubio, mais l'humiliation sera forcément présente dans tous les esprits, d'autant que tous les mois qui ont suivi ont prouvé combien Washington n'avait pas l'intention de relâcher sa pression sur le continent, confère la crise autour du Groenland, et dans ces conditions, autrement dit, sous l'intense pression de leur allié américain, on imagine que les Européens seront sur le qui-vive, d'autant que les sujets de discorde sont innombrables, pêle-mêle, on citera l'effritement de l'ordre international, la dissuasion nucléaire, sans oublier la guerre en Ukraine.
Et à ce titre, un rapport publié la veille de la conférence nous apprend que l'aide internationale à Kiev a été moins importante en 2025 qu'elle ne l'était en 2024.
Oui, 31 milliards d'euros contre 35 pour ce qui est de l'aide strictement militaire, une baisse certes légère mais bien réelle et qui en l'occurrence, Eric Biegala, est surtout à mettre au compte justement du désengagement américain.
C'est le constat sans appel de ce rapport. Les États-Unis ont réduit à presque rien leur aide matérielle à l'Ukraine. L'administration Trump a réduit l'effort de plus de 90%. Cela ne veut pas dire qu'on ne trouve plus d'armement américain en Ukraine, mais ceux-ci ne sont plus donnés par les États-Unis, mais achetés aux États-Unis. Essentiellement par les pays européens les plus riches, Pays-Bas, Norvège, Allemagne, Suède ou Danemark, achetés pour être ensuite transmis aux Ukrainiens. C'est le cas des systèmes d'armes les plus lourds et les plus chers, comme les batteries sol-air Patriot. Les pays européens n'ont pas entièrement combler le vide laissé par le désengagement américain, mais on s'en approche. Au-delà des matériels achetés pour l'Ukraine, les Européens assurent aussi le financement de l'armement produit en Ukraine même. Et là, c'est une petite révolution. Grâce à ces financements, les entreprises d'armement ukrainiennes produisent dorénavant leurs propres canons, leurs blindés transports de troupes et bien sûr leurs drones militaires. Plus de 4 millions de drones ont ainsi été produits en 2025 et le vice-ministre de la Défense ukrainien promettait qu'en 2026, près de 10 millions d'unités pourraient être produites si bien sûr les financements européens se poursuivent.
Alors, on l'aura compris, cette conférence de Munich aujourd'hui sera l'occasion pour les Européens de faire montre de leur unité, ce qui n'est pas forcément garanti dès lors que l'attitude adoptée à l'égard des États-Unis diffère d'un dirigeant à l'autre. Cette fragilité est même éclatante au regard du voyage qu'a prévu d'effectuer Marco Rubio, puisqu'après Munich, le secrétaire américain se rendra d'abord en Hongrie dimanche, puis en Slovaquie lundi, soit deux pays parmi les 27 dont les dirigeants sont de farouches partisans de Donald Trump, mais aussi et surtout des eurosceptiques assumés.
Et ce n'est certainement pas l'avertissement lancé par l'avocate générale auprès de la Cour de justice de l'UE qui devrait apaiser ces tensions.
Hier, Tamara Capetta a exhorté la Commission à revenir sur le choix de l'exécutif européen de dégeler des fonds d'un montant de 10 milliards d'euros en faveur de Budapest. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles. Alors cet avis est censé éclairer la juridiction de Luxembourg, dont l'arrêt est attendu au cours des prochains mois. Or, si la Cour suivait donc la décision de la magistrate, eh bien on imagine, Fabien, que ce serait un désastre pour Viktor Orban en pleine campagne pour sa réélection.
Oui, il aura sans doute à cœur d'expliquer tout le mal qu'il pense des technocrates de Bruxelles, comme il aime les appeler, sans jamais faire trop de distinctions d'ailleurs entre les différentes institutions européennes, strictement respectueuses, elles, du principe de séparation des pouvoirs, contrairement à ce qui lui est reproché à lui, en Hongrie, au nom du respect de l'état de droit. C'est justement le cœur du sujet aux yeux de la justice administrative européenne. Elle estime que l'exécutif européen, la Commission, a été trop vite en besogne en débloquant fin 2023 10 milliards d'euros sur les 30 gelés pour non-respect de l'état de droit en Hongrie, indépendance de la justice, liberté académique, droit des minorités, notamment sexuelles, à la veille d'un important sommet européen qui devait se prononcer à l'unanimité des 27 sur la future adhésion de l'Ukraine à l'UE et sur la pérennisation de son soutien à Kiev. Il est donc reproché à la Commission d'avoir voulu acheter en quelque sorte le non-veto de la Hongrie au motif de garantie soi-disant apportée par Budapest, garantie qui semble bien fumeuse à l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne. Que peut-il se passer maintenant? La Cour ira-t-elle jusqu'à condamner la Hongrie à rembourser les sommes versées par la Commission? Ce serait un camouflet pour Viktor Orban, mais aussi pour la Commission. Le Premier ministre hongrois, devancé par son rival Peter Magyar dans les sondages pour les législatives de dans 2 mois, tentera à coup sûr d'en faire un argument de campagne dans un registre de victimisation qui permettra, espère-t-il, de séduire un maximum d'électeurs eurosceptiques.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
Midi et 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Emmanuel Macron présidait ce matin depuis les jardins de l'Élysée une cérémonie en hommage à Ilan Halimi, ce jeune juif séquestré, torturé à mort il y a tout juste 20 ans. Le chef de l'État y a rappelé la nécessité de lutter contre l'antisémitisme tout en pointant du doigt ceux qui, selon lui, le propagent, l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors il se trouve qu'au même moment, Marine Le Pen inaugurait, elle, dans son fief des Nains Beaumont, dans le Pas-de-Calais, une allée Ilan Halimi, justement, manière pour la patronne des députés du parti à la flamme de continuer. Rosalie Lafarge a tenté de rompre avec l'antisémitisme, évidemment associé aux propos négationnistes de son fondateur.
Au RN, on estime être un bouc émissaire au sujet de l'antisémitisme. On rappelle régulièrement que Marine Le Pen a elle-même exclu son père du parti après des propos réitérés sur la Shoah, et on essaie, année après année, de se défaire de l'étiquette antisémite, mais sans jamais revenir sur l'historique, souligne Jean Petaut, politologue associé au groupe de réflexion Spiral. À l'Institut.
Je crois que le RN s'efforce d'effacer le passé. On pourrait dire que Marine Le Pen cherche à ancrer l'image d'un Rassemblement national qui serait né, en quelque sorte, ex nihilo, sans avoir d'histoire et sans être l'héritier, le parti, et elle, l'héritière d'antisémites qui ont fondé le Front National et même avant d'autres groupuscules.
Et la stratégie semble fonctionner, électoralement parlant en tout cas.
Le fait que ça ne soit pas un marqueur répulsif de l'électorat, oui, il faut le constater. Et une partie de la communauté juive indique, ou en tous les cas ne cache pas, sa préférence pour des candidats du Rassemblement national, ce qui est un phénomène relativement nouveau.
S'il reste difficile pour certains de ces cadres de reconnaître l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, le parti peut quand même aussi désormais, sans être trop bousculé, s'associer à des marches contre l'antisémitisme, comme il y a un peu plus de 2 ans à Paris. Mais il est régulièrement rattrapé par les propos de certains de ses candidats aux différentes élections. Il y a encore quelques jours à Belfort, le RN a fini par retirer l'investiture à son candidat au municipal pour des publications problématiques sur les réseaux sociaux.
C'était il y a 6 ans, les élections municipales s'étaient déroulées, on s'en souvient, dans une atmosphère totalement surréaliste, d'abord maintenue malgré la progression fulgurante de l'épidémie de Covid-19, avant que le report du second tour ne s'impose finalement comme une évidence de l'isoloir. À l'isolement, les Français ne retourneront glisser leur bulletin de vote que 2 mois et demi plus tard. Alors cette année, fort heureusement, rien ne devrait venir perturber le bon déroulement du scrutin. Pour autant, ces élections 2026 seront-elles des municipales comme les autres? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, par ailleurs chercheur au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés, pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas, bonjour Rémi Lefebvre. On devrait donc avoir un taux de participation plus élevé qu'en 2020, qui en raison de la crise Covid était de 40-45%. Habituellement, c'est 20 points de plus. Est-ce que c'est susceptible de changer les choses, ce regain de participation qu'on devrait avoir cette année ?
Oui, d'abord, il est probable que la participation soit quand même plus faible que celle de 2014, qui serait un peu le point de référence, hein, puisque 2020, c'est une référence qui n'est pas pertinente. Donc la question, c'est de savoir est-ce que effectivement, on aura une participation plus forte que 2014 ou pas. Et oui, ça va jouer très clairement parce que aux élections municipales, les catégories populaires votent assez peu. Et des partis politiques comme la France Insoumise ou le Rassemblement National comptent sur la participation de ces milieux populaires. Et donc, dans tout un ensemble de villes et dans les quartiers populaires des grandes métropoles, le niveau de participation va avoir un effet important. La dernière fois, il y a eu peu de participation, ça avait favorisé plutôt les maires sortants. Puisque les personnes âgées qui ont beaucoup voté avaient eu un vote plutôt légitimiste.
Une autre spécificité de ces élections municipales, c'est leur proximité avec la présidentielle qui se tiendra dans 1 an. Est-ce que ce scrutin sera un tour de chauffe avant la présidentielle ?
Alors, il est très clairement perçu comme tel par un certain nombre de partis politiques, notamment la France Insoumise, le Rassemblement National, mais aussi comme par des forces de gauche comme les écologistes, qui très clairement jouent un peu leur carte au niveau national. Marine Tondelier est très impliquée dans ces élections municipales, puisqu'elle joue aussi sa candidature à une éventuelle primaire à gauche. Donc ces élections municipales, effectivement, sont assez marquées par la nationalisation. Ça ressemble un petit peu aux élections municipales de 2001 qui avaient précédé les élections présidentielles de 2002. Et donc, l'équilibre entre considération locale et nationale va être perturbé par cette proximité de l'élection présidentielle qui va être dominée, alors notamment dans les grandes villes, pas forcément dans les petites, par des considérations de politique nationale.
Avant la présidentielle, il y a d'autres élections, les sénatoriales au mois de septembre. C'est un enjeu important pour les partis politiques historiques, hein, comme le Parti Socialiste ou les Républicains. Est-ce qu'on peut attendre des changements au Sénat à l'issue de ces élections ?
Bah, ça va dépendre évidemment de la capacité de partis politiques comme la France Insoumise, le Rassemblement National, d'obtenir des élus. Il faut rappeler que les grands électeurs au sénatorial, ce sont essentiellement des élus municipaux à 95%. Et donc plus les partis politiques auront d'élus municipaux, plus leur probabilité d'avoir des sénateurs et notamment un groupe parlementaire au Sénat sera grande. Et c'est un enjeu important, notamment pour le Rassemblement National. D'autant plus que le Sénat, dans le contexte institutionnel actuel, d'absence de majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, le Sénat joue un rôle important.
Beaucoup de candidats ne mettent pas forcément en avant leur étiquette politique. Est-ce qu'on assiste à une dépolitisation des candidats ?
Alors, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Déjà en 2020, les étiquettes des partis politiques étaient vraiment repoussoires. Hein, Le niveau de défiance à l'égard des partis politiques est très très élevé en France, comme une enquête du CEVIPOF l'a récemment montré. Et par ailleurs, la politique locale est traditionnellement présentée comme pragmatique, apolitique et à distance des partis politiques. Ce qui est paradoxal dans ces élections, c'est que les étiquettes partisanes sont peu mises en avant. On le voit avec Édouard Philippe, on le voit avec la députée RN qui est candidate à Toulon, même Christian Estrosi ou Éric Ciotti à Nice, qui sont très partisans, ne mettent pas leur étiquette, alors même que les partis politiques continuent à structurer le jeu politique. La plupart des candidats sont issus de partis, et ce qu'on voit aussi beaucoup lors de ces élections municipales, c'est que beaucoup de petits partis composent en fait les attelages au niveau municipal. Donc les partis politiques sont à la fois peu visibles, mais très structurants.
C'est bien noté. Merci Rémi Lefebvre, chercheur donc au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Stéphane Robert.
Voilà plus de 2 ans et demi que les professionnels du secteur l'attendaient.
La programmation pluriannuelle de l'énergie a fini par être publiée ce matin au Journal officiel, de quoi donner désormais aux différentes filières une feuille de route sur leurs objectifs de production donc d'ici 2035. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
En filigrane, on devine assez aisément l'objectif de la France de sortir des énergies fossiles qui représentent, on le rappelle, encore 60% de notre consommation contre 40% pour les énergies dites décarbonées. Et pour inverser cette tendance, Jeanne, eh bien, Bercy entend engager un grand choc d'électrification de nos usages. Un plan sera annoncé en ce sens d'ici le printemps prochain. Mais ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que pour y parvenir, le gouvernement entend miser sur l'atome.
Et oui, 4 ans après le discours de Belfort d'Emmanuel Macron qui prédisait la reprise de la grande aventure du nucléaire civil, l'ambition est confirmée dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, avec d'abord un cap de production rehaussé, fixé entre 380 et 420 TWh d'ici 2030-2035. C'est au moins 20 de plus donc que ce qu'on produit aujourd'hui annuellement. Pour y arriver, Bercy mise sur le parc actuel, nos 57 réacteurs, objectif augmenter leur puissance, mais aussi allonger leur durée de vie à 50, 55, voire même, c'est précisé dans cette PPE, au-delà de 60 ans. Le coût de ce programme industriel a été évalué à une 50 milliards d'euros par EDF, mais il reste conditionné aux impératifs sécuritaires analysés en ce moment par l'autorité de sûreté nucléaire. Deuxième jambe de cette stratégie nucléaire, le renouvellement de notre parc vieillissant, avec la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 et de 8 supplémentaires en option. Les premiers travaux ont déjà commencé à Penly, près de Dieppe, mais la construction d'une centrale, ça prend du temps, comme nous l'a rappelé le site de Flamanville. Leur inauguration n'est donc pas prévue avant 2038. Ils ne contribueront pas aux objectifs de 2035. Le gouvernement prévoit enfin de soutenir la recherche sur les nouvelles technologies, les petits réacteurs nucléaires qui manquent encore aujourd'hui de maturité.
Merci Jeanne Serrin. À quand la fin du cauchemar au Louvre, après le casse du siècle, après une fraude à la billetterie révélée avec plus de 10 millions d'euros de préjudice ce matin? C'est une fuite d'eau qui a contraint le musée le plus visité au monde à fermer plusieurs salles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par une énième perturbation qui traversera l'hexagone d'ouest en est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malraï. À 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.